Boost.
Bonjour Denis, bonjour Vive Cosme.
Disons que pour les habitués de votre monde d'Evanégir, la messagère du ciel prend place après la volonté du dragon, la route de la conquête qui sont déjà sorties quelques années, mais avant Port d'Âme, qui était le précédent.
Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez situer ces âges sombres, situer la géopolitique, la chronologie vaste?
Oui, alors déjà, ce qui est vachement important, c'est que dans l'univers d'Evanégir, alors ça va sembler un peu mieux, mais tout ensemble narratif est indépendant. Ce que j'entends par là, c'est que chaque récit qui est identifié comme un ensemble narratif avec une histoire, genre La Messagère du Ciel, ça va être une tétralogie, mais ou alors une nouvelle parue indépendamment, tout ça, c'est des récits qui sont entièrement indépendants. Ça fait partie d'un monde plus vaste qu'est le monde d'Evanégir. Donc de temps en temps, on retrouve parfois forcément déformé par l'histoire, des lieux ou des événements, etc. Mais toute histoire est entièrement indépendante. Il n'y a pas de la même manière que on n'a pas besoin de lire tous les romans qui se passent sur Terre pour comprendre comment la Terre fonctionne. Sinon, ça serait compliqué. La Messagère du Ciel, c'est entièrement indépendant, mais effectivement, ça se passe dans les âges sombres, qui est une époque de fantaisie, mais post-apocalyptique. À l'époque de la Messagère du Ciel, donc il est dit qu'il y avait un empire dirigé par une corruptrice, et Dieu, le grand Dieu de vérité, voyant cela, a été offensé par cette vision et a donc décidé de détruire ce monde ancien. Évidemment, comme c'était dirigé par une femme, eh bien, les femmes sont mises à l'index. Toute ressemblance avec certains cultes de l'histoire humaine pas entièrement fortuite. Et donc on est dans un monde qui est post-apocalyptique, qui est retourné à l'époque médiévale. On comprend plus ou moins que l'Empire était quand même assez technologique. Et en plus, pour tout arranger, la magie est devenue un peu folle. Et donc il y a de grandes zones qui sont dites des zones instables, où en fait la magie se déclenche de manière extrêmement chaotique. Et il y a des créants en général, ce qu'on appelle les anomalies fixes, on sait qu'il ne faut pas y aller, mais il y a des endroits où on sait que la magie peut se déclencher à n'importe quel moment, et créer toutes sortes de choses et complètement pervertir la règle de la nature. Donc en gros, en mode super accident nucléaire dans l'esprit.
Et donc dans ce contexte un peu apocalyptique, on suit Merian, et elle est un peu à l'image de l'héroïne Stanir Corvosa dans La Route de la Conquête. C'est forte déjà, archétype-là, mais qui a une grosse force de caractère qui doit affronter les éléments et affronter sa société aussi. Déjà, pourquoi c'est important d'avoir ce style de personnage si agréable?
Alors déjà, il y a de façon purement très personnelle. Je suis homme cis blanc hétérosexuel et du coup, je pour moi, il y a toujours une phrase dans le discours féministe de manière générale qui revient fréquemment pour moi, c'est check your privilege. Donc prends garde à ton privilège, quoi. Donc j'ai conscience d'écrire du point de vue d'une position privilégiée, et donc je m'efforce tout simplement de rendre grâce à l'humanité. L'humanité, ce n'est pas simplement que des hommes cis blancs hétérosexuels. Et je sais pas si je le fais bien, mais j'aimerais m'y efforcer. Il y a des trucs sur lesquels j'ai forcément, bien sûr, comme tout le monde, des zones d'ombre. Mais donc j'ai envie d'essayer de parler autant que possible. Avec les outils que j'ai, qui sont forcément limités puisque je ne suis que moi, mais autant que possible de réserver aux femmes une place, la même place, ni plus ni moins qu'aux hommes dans mes bouquins. Dans le cas particulier des dieux sauvages, c'est que une grande partie de l'inspiration et de la volonté d'écrire les dieux sauvages vient de l'histoire de Jeanne d'Arc. Qui pour moi est une histoire absolument fascinante, puisqu'on a là une jeune fille qui se présente comme l'envoyée de Dieu. L'histoire la présente comme faisant un certain nombre de miracles. Elle sauve plus ou moins le monde quand même, et puis la même église de ce Dieu dont elle se réclame la fait brûler sur le bûcher, ce que je trouve quand même assez paradoxal, faute de meilleurs termes. Et c'est toujours une histoire qui m'a toujours fasciné, en fait, en me disant, mais enfin, comment ça marche? Comment on en arrive là, quoi? Comment est-ce que... Alors, on creuse dans l'histoire, on comprend comment ça marche, évidemment, elle est réhabilitée après, mais ça lui fait une belle jambe. Ce genre de paradoxe, sur la manière dont les systèmes institutionnels de la pensée humaine, la religion, mais il y en a plein d'autres, fonctionnent, est toujours un truc, je crois, qui m'énerve un peu. Donc j'ai eu envie d'en parler, et face à ce monde post-apocalyptique, hyper patriarcal et hyper dictatorial par certains côtés, bah, pour avoir. Voilà, il y a aussi une question de. Alors, il y a une question de plaisir qui est que c'est quand même cool d'écrire des personnages qui ont de la répartie et qui sont moteurs. Donc, c'est un plaisir d'auteur déjà. Et puis, il y a aussi hein, tout simplement une question narrative qui est que bah, il faut quand même un personnage fort pour pouvoir s'opposer à ça et pour déjà, dans le cadre de Marianne, avoir décidé à 14 ans d'avoir aller confronter au choix en se disant bah, est-ce que je rentre dans le moule et je deviens une serf comme toutes les autres et je vais servir de mère à des enfants et puis voilà, et puis j'aurais pas le droit de l'ouvrir. Ou est-ce que je décide d'embrasser la liberté et de vivre en zone instable et de dire en gros, en gros en substance fuck à tout le reste, mais je vivrai libre. Tant pis, je serai peut-être pas vieille, mais au moins je vivrai libre. Donc voilà, donc ça dénotait déjà une certaine force de caractère. Et c'est donc il y a le plaisir, clairement, il y a un plaisir d'auteur d'écrire des personnages comme ça. Et il y a aussi l'impératif narratif qui est que si je dépeins quelqu'un qui doit survivre dans ce monde-là. Et qui et peut-être faire son chemin dedans et peut-être devoir s'efforcer de sauver le monde alors que le monde va pas forcément tellement la laisser faire, bah il faut quelqu'un qui ait l'air insolide tout simplement.
C'est drôle d'ailleurs, elle est sollicitée par une divinité, mais elle veut pas, et après il va essayer de la forcer de rentrer dans le moule,
Tout
justement.
à fait, et puis le problème de Marianne, c'est qu'elle c'est quand même quelqu'un qui a bon cœur. Une des raisons pour lesquelles aussi elle a quitté sa société, c'est parce que ça lui brisait le cœur de voir ça aussi. Donc voilà, bon, sans spoiler, le volume 2 n'est pas encore sorti, mais il y a un moment où elle en discute, et elle dit bon, ouais, effectivement, ça peut être courageux, mais en fait, il y a aussi une part de moi qui considère que j'ai fui, et qu'en fait, j'ai résolu le problème en me disant bon, je veux rien avoir à faire avec ça. Donc oui, et bon, j'avoue qu'effectivement, le fait. Il y a tout un jeu. Pour moi, voilà, j'espère que ça amuse les lecteurs aussi, mais il y a tout un jeu qui, pour moi, qui est rigolo sur la religion, où c'est une religion où on sait que Dieu existe, ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec lui, ni même qu'on va croire en lui au sens de en croire en quelqu'un en se disant j'ai confiance en toi. C'est oui, je sais que tu existes, mais je vais quand même me méfier parce que tu as quand même un peu détruit le monde. La foi et la preuve sont deux choses qui sont finalement pas forcément corrélées, en tout cas chez Marianne. Et puis forcément, c'est du coup avec ce personnage-là, ça me permet de traiter à travers la relation qu'elle a avec ce dieu-là, qui l'a choisi voilà, sans entrer dans le détail, mais qui la met en position d'être en première ligne concernant la guerre que se mènent les deux dieux ennemis. Ça me permet d'explorer à travers les discussions qu'elle a avec elle, puisque forcément c'est plutôt quelqu'un de rebelle, ça me permet d'explorer. Un certain nombre de paradoxes ou de contradictions, des dogmes religieux de manière générale.
C'est d'autant plus vrai dans notre société aujourd'hui. Est-ce que vous ressentiez qu'il y a une sorte de, pas de réaction en plus, c'est trop gros, réactionnaire, mais il y a besoin d'œuvres de fantasy de ce type-là?
Ah, je pense qu'il y a toujours besoin de discuter de la religion de manière générale. Je pense que de manière générale, il y a toujours besoin de discuter de la croyance qu'on ne questionne pas. J'ai eu la chance, pour moi c'est un honneur, de participer, en m'occupant de ce qui était vulgarisation scientifique, aux traductions de La science du disque monde, écrites par Terry Pratchett et Jack Cohen et Ian Stewart, qui sont des scientifiques. On a co-traduit ça avec Patrick Couthon. Oui, donc pour moi, l'empirisme et la méthode scientifique sont l'une des plus grandes conquêtes de l'esprit humain. C'est ce qui nous a permis d'envoyer des gens sur la Lune. C'est ce qui nous permet de comprendre toujours mieux le monde dans lequel on vit. C'est ce qui nous permet de sortir du mode de pensée purement tribal, quel qu'il soit, où on accepte la parole venue d'en haut simplement sur la parole, sur la valeur qu'elle vient d'en haut. Questionner et douter le monde dans lequel on vit, s'interroger dessus, c'est la base. C'est donc la base de la remise en question personnelle. C'est la base de la société. C'est la base de se dire, bah, peut-être que j'ai pas nécessairement entièrement 100% raison tout le temps sur le mec qui est en face de moi. Accepter la manière dont on fonctionne ensemble. Voilà, tout ça, c'est même au-delà simplement de juste s'interroger sur la manière dont le monde fonctionne et peut-être devenir meilleur à la base de ça. Il y a simplement ces mêmes questions de survie, pure et dure. Oui, alors c'est quelque chose qui a toujours existé, mais quand on est dans une époque où Quelle que soit la religion, hein, parce que y a des fondamentalistes chrétiens aux États-Unis qui sont gratinés aussi. Quelle que soit la religion où on est, quand il y a des gens qui sont prêts à se tuer pour vous tuer vous alors que vous avez rien demandé à la question, là il y a l'étape du doute raisonné, quelque part, elle s'est carrément pas faite. Donc ça veut pas dire, je suis pas du tout, au contraire, hein, j'en avais parlé dans Léviathan, je suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a aucune place pour l'expérience du sacré dans l'expérience humaine. Au contraire. Moi, je crois beaucoup à ce que disait Carl Gustav Jung, c'est-à-dire il parlait d'une mineuse, c'est justement l'expérience du sacré. Mais l'expérience du sacré, elle est éminemment personnelle. Et y a une, pour moi, il y a une place, et à mon avis, c'est le défi de l'espèce humaine au XXIe siècle pour arriver à cette espèce de sérénité positive, de lâcher prise, qui permettent d'allier cette composante spirituelle au sens large de lumineux, d'expérience du sacré, parce que ça nourrit l'expérience humaine, on n'est pas des machines, mais en même temps, intégrer l'esprit. Voilà, l'empirisme, intérêt, la méthode empirique et le doute raisonné, de manière à toujours progresser sur la connaissance du monde et la connaissance de soi. Arriver à réconcilier ces deux dimensions, pour moi, c'est le défi de l'espèce humaine au XXIe siècle. Quand je vois qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui doutent que la Terre est ronde, ou qu'on est allé sur la Lune, et que le raisonnement prévalent, voilà, qu'il y a des gens qui considèrent que, parce qu'il y a une espèce de vague étude, quand j'entends des trucs comme la conspiration, du lobby médical pour faire vacciner les enfants, etc. Enfin, on est clairement dans un obscurantisme, qui est en train, pour moi, qui est très inquiétant et qui prend du terrain. Quand on voit, sur Internet des idées qui se répandent comme quoi la meilleure preuve d'une conspiration, c'est justement qu'il n'y a pas de preuve, ça vous montre bien comment ils sont forts. Là, voilà, faut pas donner dans l'angélisme non plus, mais à un moment, quand des faits sont là, qu'on a la possibilité d'aller les chercher, ça me paraît nécessaire de questionner. Bah, tout simplement, moi, je donne pas des leçons, j'écris des bouquins de fantasy, j'écris des histoires. Mais j'aime bien qu'en écrivant des histoires, on se pose des questions. Et j'apporte pas les réponses. Il y a les réponses de l'histoire, qui sont les réponses des personnages, qui sont pas les miennes. Si j'écris des bouquins, c'est justement parce que je me pose des questions sur des trucs. Et que, voilà, j'écris pas sur les trucs dont j'ai les réponses. Parce que je les ai déjà, donc pourquoi j'écrirais des bouquins dessus? Voilà, c'est juste un jeu à travers la fiction, et je pense que c'est nécessaire de s'interroger ensemble sur la place de ces choses-là par rapport à la vie qu'on mène et par rapport au monde qu'on veut créer.
Et justement, c'est ça qui est intéressant parce que bien souvent, vous faites bien la différence entre l'histoire, les faits et le récit qu'on en fait. Et justement, dans la messagerie religieuse, comme vous brassez toutes vos anciennes publications, enfin, en tout cas les faits, qui sont réutilisés, réécrits, on parle beaucoup des souvenirs, de la mémoire, qu'on appelle ça, justement. Comment vous réfléchissez ça au moment de l'écrire? Est-ce que vous faites une trame de base et vous remélangez tout derrière, ou ça vient plus au fil du truc, vous disséminez des petits indices?
Alors, pour Evanégyr, de manière globale, j'ai I have a plan. J'ai un plan, je sais toutes les grandes, voilà, les grandes réponses et les grands mouvements de l'histoire, les différents âges, les raisons, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à chaque époque. Mais l'histoire n'est pas une science exacte. Il y a forcément le gouffre, des siècles, le gouffre des interprétations. En plus, dans Avec les deux sauvages, c'est entre guillemets d'autant plus facile, puisque comme tout a été détruit et remis à zéro, forcément, les subsistances de ce qui s'est passé avant, c'est très facile, surtout quand on n'a plus les clés pour décoder ce qui se passe. Il y avait une expérience sociologique qui m'avait beaucoup amusé quand j'étais tombé dessus, où on met des gens dans une pièce face à un ordinateur, et le but, c'est de faire allumer une lumière sur l'ordinateur, et on leur met un clavier sous les yeux. Et en fait, il faut qu'ils trouvent comment ils font. Et donc, vous avez des gens qui sortent et qui vous disent: Ah, il faut taper 7 fois sur la barre d'espace. Il y en a d'autres qui disent: Il faut taper tel mot de passe. parce que ça marche à chaque fois, etc. Et en fait, ils ont tous une réponse différente. Et en fait, on se rend compte après coup que, en fait, le seul truc, c'est que la lumière s'allume en fait toutes les 5 secondes, quoi qu'il arrive, quoi que les gens fassent. Donc, c'est voilà, l'histoire, c'est un peu comme ça, je pense, avec tout le respect que je dois évidemment aux historiens. Mais dès qu'il y a un matériau, dès que l'humain étudie quelque chose, forcément, on plaque des modèles là-dessus. Une théorie scientifique, c'est un modèle qui est suffisamment complet pour marcher, qu'on n'a pas encore réussi à mettre en défaut, en fait. Mais toute représentation humaine est un modèle, de toute manière. Alors on est bien obligé d'opérer sur quelque chose, sinon on devient dingue, on ne peut pas fonctionner. Mais toute représentation de la réalité n'est que ça, n'est qu'une représentation. Et le modèle peut être hyper affiné, tellement affiné qu'on ne peut jamais le mettre en doute, en tout cas qu'on n'y arrive pas. Mais ça reste un modèle. Donc Evanégyre est un peu construit comme ça. C'est j'ai les faits, parce que forcément je suis le démiurge, donc je sais vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est pas tellement les faits qui m'intéressent. C'est-à-dire que vous lisez La Route de la Conquête, vous lisez La Volonté du Dragon, je peux vous dire que l'Empire se casse la gueule en 983 de son ère. C'est pas l'idée, c'est pas la question. C'est pas le fait qui est important, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment les gens l'ont vécu, quel impact ça a eu sur eux et quel impact ça a sur les gens qui suivent. Le matériau pour moi qui est important, dans la littérature de l'imaginaire, je trouve que c'est un grand jeu de créer des mondes. Bien sûr, on est le seul domaine où on peut faire ça, mais en fantasy en particulier, je trouve qu'on a un petit peu trop de tendance à confondre l'arbre et la forêt, c'est-à-dire que, évidemment, le jeu du monde est super important, mais finalement, le monde n'a pas tellement d'importance. En fait, en réalité, en termes narratifs, ce qui est important, c'est les gens qui vivent des trucs dessus. Donc, dire que l'Empire se casse la figure, dire que les âges sombres se finissent à un moment, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est comment, par qui, pourquoi. George Martin, il disait, ce qui m'intéresse dans l'histoire, ce sont les histoires. Et c'est, à mon avis, et quand on parle de fiction, on raconte des histoires. Donc dans le cours de l'écriture, j'ai à peu près les ambiances que je veux à chaque âge et à chaque époque. Et comme un monde c'est grand, et comme une histoire c'est vaste, la frise au sens de la frise historique, ben j'ai finalement relativement le loisir d'interpréter. Je fonctionne beaucoup avec des forces génératrices en fait. C'est quelles sont les forces en présence à tel moment et à tel endroit, et essayer de dérouler ça de la manière la plus naturelle et la plus logique possible à travers les gens qui vivent le contexte. Et c'est ça qui fait une histoire. À mon avis.
Dans la messagerie du ciel, ça se voit concrètement, parce qu'il y a tout un tas de points de vue différents. Genre, pour en reprendre quelques-uns, mais le plus difficile à écrire, ce serait lequel autre, peut-être que Myriam?
Le plus difficile. En fait, les plus difficiles à écrire, ils ne le sont pas pour des raisons de narration ou d'univers. Ils le sont pour des raisons purement narratives. Il y a certains personnage pour qui il est parfois plus difficile de maintenir l'attention narrative que pour d'autres. C'est vraiment tout simplement des questions comme ça, quoi. Et le dauphin, par exemple, Erwell, qui est voilà, qui est le jeune héritier, le jeune héritier de la couronne, qui est voilà, qui a 16 ans, qui est très idéaliste, qui est très naïf aussi. Il a 16 ans et puis il a grandi un petit peu dans un monde un peu protégé par son père. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce qu'il va se retrouver assez vite en situation de devoir prendre des décisions et il est clairement pas préparé pour. Le pire, c'est qu'il le sait. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce que c'est un des rares personnages positifs avec encore une certaine fraîcheur et candeur de la jeunesse. Et donc c'est heureusement qu'il y en a. Mais c'est pas forcément évident en sens purement narratif parce que. Parce que j'ai pas envie, parce que moi ça me gonfle quand je lis ça, j'ai pas envie de raconter des moments où il se passe finalement pas grand-chose, tout simplement. Et quand on a quelqu'un comme ça qui est en formation, en passage à l'âge adulte, c'est pas toujours évident, au sens purement narratif, hein. Vraiment, c'est vraiment de la pure technique d'écriture. Ça nécessite plus de travail pour réfléchir, à se dire, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer d'intéressant concernant son histoire et sa tension narrative. Qu'est-ce qui est important à montrer le concernant? C'est beaucoup plus facile. C'est toujours beaucoup plus facile de raconter. Là, c'est le simple adage, hein, les gens heureux n'ont pas d'histoire. évidemment beaucoup plus facile de raconter l'histoire de Marianne, qui est constamment sous pression, qui est face à Devoir ou Shinsen aussi, qui sont des personnages qui envoient des vertes et des pas mûres, et qui en bavent, et qui sont constamment quelque part en mode survie, et qui ont constamment à devoir s'extirper de situations difficiles. Alors après, pour l'équilibre du bouquin, c'est bien d'avoir des personnages comme Erwell, parce que ça permet de calmer un peu la tension et de respirer, mais c'est un peu plus, ça nécessite un peu plus de travail de préparation, en fait, de façon purement technique, pour trouver comment finalement, parce que Erwell, il passe quand même une bonne partie du volume 1 finalement à voyager d'un endroit à un autre, trouver comment, en fait, lui faire avoir une vie intérieure peut-être plus riche, et lui trouver de l'opposition quelque part, du conflit. Alors de par sa situation, finalement, ça finit par arriver assez naturellement, mais c'est les trucs paradoxaux de l'écriture, c'est que ce naturel nécessite d'être un petit peu plus recherché, et d'un peu plus d'aller creuser un peu plus pour aller le trouver, qu'un personnage qui est constamment en train de devoir prouver sa légitimité, survivre à des attaques, s'évader, ce genre de choses.
Ce qui n'est pas contre votre façon de faire, parce que vous avez tendance à beaucoup planifier et vous communiquez pas mal là-dessus. Mm-hmm. Ce format d'une tétralogie désormais, il s'est organisé comment? Est-ce qu'il peut encore changer?
Alors, c'est une de mes citations préférées en écriture. J'ai longtemps cru que c'est Sun Tzu, mais en fait c'est Von Moltke qui disait « Aucun plan de bataille ne survit à sa rencontre avec l'ennemi ». Et j'ai beau planifier à mort, en fait, de plus en plus, j'ai l'impression que planifier, c'est juste pour me rassurer que je vais pas tomber à court de... Voilà, parce que ma grande trouille, c'est de tomber à court de trucs à raconter. Donc, en général, j'écris de plus en plus des plans pour pouvoir me dire « C'est bon, j'ai un plan B, au cas où je cale ». J'ai une logique, ou en tout cas, ça me permet de revenir à mes intentions si jamais je me perds dans l'envergure du truc. Mais dans les faits, le plan de bataille, même si, en fait, j'ai une histoire à raconter avec les dieux sauvages, c'est juste que je constate que, au fur et à mesure que je descends dans la tranchée et que je vis l'aventure avec les personnages, par moments, il y a des trucs qui se rajustent, il y a des trucs qui émergent, des fois, il y a des surprises merveilleuses, où on se rend compte que c'est pour ça que l'écriture, même si je planifie beaucoup, faut arriver à lâcher prise. Et quand on planifie et qu'on a un peu tendance à être un peu strict sur le contrôle, c'est pas toujours facile. Mais il faut faire conscience à son inconscient, parce qu'en général, il nous sert les trucs. Je spoilerai pas, donc je serai relativement évasif, mais par exemple, dans la suite de la série, parce que bon, j'ai un peu étudié la guerre de 100 ans pour romancer, mais vraiment, je m'en éloigne beaucoup quand même. Mais si on connaît l'épopée de Jeanne d'Arc, en fait, tous les jalons sont là, en fait. Souvent extrêmement méconnaissables et extrêmement remaniés, mais ils sont là quand même. Et il y a un jalon de la guerre de 100 ans que j'avais très envie de mettre. Quand j'ai commencé à bosser sur ce truc-là, et j'ai fini par me rendre compte au fur et à mesure de l'écriture que, non, je pourrais pas le mettre, tant pis, c'est un vachement bonne opportunité narrative, mais ça ira pas, donc tant pis, je m'en passerai. Et en fait, je me rends compte, arrivé donc à la moitié de la série, là, puisque j'ai fini le 2, en fait, vu la manière dont l'élan de l'histoire s'est agencé et s'est avancé, en fait, finalement, mon inconscient m'a servi sur un plateau le fait de pouvoir réintégrer cette opportunité que je croyais avoir complètement évincée. Donc, je sais où je vais, je sais où je finis, je sais quels sont mes points de passage importants, mais au fur et à mesure de l'avancée, de la manière dont certains personnages réagissent, il y a des ajustements. Je sais que, par exemple, à peu près, ouais, au premier tiers ou à la moitié de la messagère, je sais que le plan était déjà... le plan allait déjà changer. Et tout l'équilibre de la série a changé, en fait. Je sens que, en fait, il y a des passages de mon plan d'origine qui sont parfois des pans entiers, genre un demi-bouquin, qui vont totalement être escamotés, en fait. Qui, en fait, je me rends compte, dans l'histoire... Le focus de l'histoire n'est pas là. Et ça, finalement, c'est pas si intéressant que ça. L'histoire, elle va se diriger vers ailleurs. Et ça n'empêche pas que je passe par les jalons les plus importants que j'ai décidé et que je vais terminer à l'endroit que j'ai décidé. Parce que je sais déjà comment ça se termine. Absolument. J'ai déjà mon épilogue pour l'écrire. Mais je le fais pas parce que, justement, je veux pouvoir conserver la dynamique de l'écriture et conserver la valeur de la surprise, même si je planifie. Mais je sais où je finis. Je sais quels sont les fins mots de l'histoire et je sais quels sont les principes générateurs. Donc globalement, à partir du moment où les principes générateurs sont bien calés, je peux à peu près finir qu'à l'endroit où je veux finir. Mais il y a forcément des détours, des agencements et des surprises. Quelque part, heureusement. Parce que c'est ça qui fait vivre. Et c'est ça qui fait. C'est. Ouais, j'aime beaucoup l'image. Je suis un peu du name dropping, mais je suis désolé. Mais j'aime beaucoup l'image d'Aristote où il dit qu'une histoire, c'est l'actualisation d'une situation riche de potentialités. Et en fait, j'essaye d'avoir bien défini mes potentialités, ma situation, parce que forcément, je connais la fin. Et à partir de là, j'essaie d'actualiser la situation en la suivant. Et si je connais ma fin, et si j'ai bien défini ma situation riche de potentialités, je vais peut-être prendre des détours inattendus, mais je vais finir là où je pensais devoir finir et passer par les points importants. Donc, mais oui, il y a eu déjà beaucoup d'ajustements. Je spoile pas, mais dans La Messagère, vers les deux tiers, la reine Isara prend une décision que j'avais absolument pas prévue. Mais une fois arrivée là, finalement, elle a prise pour moi et j'ai fait, bah oui, mais en fait, c'est vachement bien et c'est même mieux que ce que j'avais imaginé. Et c'est rigolo parce que c'est justement cette décision qui me permet, je le constate à la fin du volume 2, de réintégrer cette histoire, cet aspect historique dont je parlais, que je croyais devoir laisser de côté. Et en fait, non. Donc, voilà, c'est l'inconscient est une machine formidable.
Et du coup, la sortie est prévue pour quand, du coup?
Sortie est prévue pour mars. Donc, en fait, au début, donc, il est censé y avoir 3, mais comme le 2, et comme la série a pris vraiment beaucoup d'envergure, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait en faire 4. Et alors, je touche du bois, normalement ça devrait être 4, mais on commence déjà à me chambrer en me disant, ouais, quand il y en aura 5, c'est pas le but, hein. C'est vraiment pas le but. Donc déjà, donc le volume 2 s'appellera Le Verrou du Fleuve, et La Fureur de la Terre qui devait être le 2 sera finalement le 3. Mais en fait, c'est à peu près c'est les deux ensembles, le plus grand ensemble narratif. Et le 4 s'appellera L'Héritage de l'Empire, donc le 2 sort en mars. Et la Fureur de la Terre sortira le plus vite possible après. En tout cas, je fais tout ce que je peux, je ne fais que ça. Donc je fais vraiment tout ce que je peux pour que les délais soient le plus courts possible. En tout cas, je m'engage à ce qu'il y ait qu'il y ait au maximum un an entre chaque volume. Là, ça a marché, puisque la Messagère du Ciel est sortie en mai 2017, et Le Verrou du Fleuve sortira en mars 2018. Donc pour l'instant, contrat rempli. Et je vais m'efforcer de raccourcir au maximum les délais toujours entre les deux. Le Verrou du Fleuve a été un peu compliqué. J'ai pris un peu de retard par rapport à ce que j'avais annoncé. J'ai pris 4 mois de retard. Parce que, voilà, en fait, au fur et à mesure, j'ai constaté, justement en descendant dans la tranchée, en suivant avec les personnages, qu'en fait, ce deuxième grand acte de la série était finalement beaucoup trop ambitieux pour un seul bouquin et qu'il fallait le scinder, quoi. Donc, normalement, on devrait en rester là, mais comme j'ai dit que ça serait 3 et finalement c'est 4, j'ose plus rien dire et voilà, j'ose plus m'engager sur. Mais en tout cas, le plan, c'est ça. Modulo les hasards de la création qui sont pas une science exacte.
J'allais terminer avec ça. Est-ce qu'il vous reste du temps pour faire autre chose? La musique, les traductions, les cours, la
Alors,
lecture?
je vais traduire le troisième bibliomancien, donc le troisième volume de Magie Excalibris à la Talente de Jim Hines, qui est une série sur laquelle j'ai beaucoup de plaisir et qui est une véritable déclaration d'amour à la lecture, qui est hyper fun en plus, au genre en plus, à la fantasy, à la SF, fantastique. Et donc, forcément, c'est vachement plaisant. Et c'est un peu, il y a un petit côté geek dans ces bouquins, donc ça me déplaît pas. En produit, bien sûr, il y a toujours le blog et le podcast Procrastination qu'on fait avec Mélanie Fazi et Laurent Genefort. Donc on a attaqué la saison 2 et la saison 2 est bien avancée, on a déjà la moitié de la saison en boîte. Donc voilà, je fais la production et on les diffuse petit à petit grâce au soutien de lebackin.net qui s'occupe de la diffusion. Et puis la musique, oui, normalement, il y a un autre jeu vidéo qui doit arriver, donc ça va aller. Voilà. Mais c'est les trucs sur lesquels je suis et je ne fais rien d'autre. En tout cas, de projet de bouquin, je ne touche à strictement rien avant la fin des Dieux Sauvages. Même si j'ai commencé à réfléchir à des envies de ce que j'ai envie de faire après, mais c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour en parler. Et pour l'instant, je prends des notes à côté quand une idée me vient, mais les Dieux Sauvages sont les trois quarts de mon temps et je n'en démords pas.
Bon courage pour terminer en tout cas dans
Merci.
ces deux prochaines années.
Merci beaucoup.
Bonne continuation.
Merci.